Colloque éthique. Conclusion.
Le colloque éthique, c'est l'heure déjà de la conclusion avec deux tables rondes passionnantes que vous pouvez retrouver bien évidemment en podcast. Et on est ravis de terminer avec le retour de Sophie de Menton. Sophie, ça va toujours ?
Oui, bah d'abord je vous regardais, je regardais tout en même temps bien sûr.
Ouais, présidente donc, c'est vrai du mouvement éthique et vous avez vu, on a eu pas mal de propositions. Hein, privatisation de l'éducation nationale, on est allé loin.
Et on va aller loin et on va les prendre et on va les proposer aux politiques qui ont absolument besoin qu'on leur explique ce qu'il faut faire pour que la France se redresse.
Bah, il y a eu un petit élan avec Gabriel Attal, mais qui a été appelé à d'autres fonctions.
Oui, oui, très, très rapide.
Voilà.
Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est extraordinaire. Gabriel Attal avait bien commencé les choses, mais nous savons que les différents ministres de l'Éducation avaient changé de position, mais qu'on interdit l'école à domicile maintenant. Et que le cours Atmer, où j'ai été enfant, et qui pour moi était mythique, par exemple, va disparaître. C'est interdit. Tout ça, c'est pour qu'il n'y ait pas d'école confessionnelle musulmane. Donc ça veut dire qu'on supprime des entreprises, des écoles formidables, mythiques, privées, qui ont inventé l'enseignement à distance, pour être sûr qu'il n'y ait pas des petites filles voilées qui n'aillent pas à l'école. C'était une parenthèse, mais supprimer des entreprises comme celle-là, c'est important. Alors, je vais...
Notre invité du jour.
Oui, notre invité du jour qui a accepté de venir, qui est Jean-Marie Rouard, mon académicien préféré de très loin. Et j'ai trouvé très important qu'il conclue parce que Jean-Marie, prenez-le bien, mais vous incarnez finalement, vous allez incarner, en tout cas dans 10 ans peut-être, une forme de culture disparue. Je veux dire que l'Académie française, qu'on appelle une vieille dame, hein, c'est pas moi, a un rôle, à mon avis, essentiel à jouer aujourd'hui. Je trouve que tout ce qu'on a vu, y compris d'ailleurs ce matin, on parlait des emplois manuels. Et quand on avait des gens qui disaient dans les emplois manuels et dans les usines, on peut pas arriver, on peut pas avoir des salariés qui sont incapables d'écrire 2 mots sans des fautes d'orthographe. On a, alors ça c'était vraiment très au cœur de tout ça. Et puis j'ai un point de vue personnel, c'est mon amour du livre, peut-être grâce à vous que j'aime tellement les livres, ceux que vous écrivez en tout cas. Et donc, je pense aussi, où est la place du livre, qu'en est-il? Et ça m'intéressait beaucoup de vous entendre sur ce sujet.
Alors, la place du livre, c'est un vaste sujet, mais c'est vrai qu'en arrière-plan, il y a la gabegie totale de l'éducation nationale et du comportement du gouvernement, des gouvernements de M. Macron sur la question de l'éducation nationale. Voilà, on avait un très bon ministre qui était M. Blanquer, et ensuite ça a été un cafouillage général, ce qui n'arrange rien. La question du livre est une question extrêmement complexe, parce que pour les pouvoirs publics, ils mélangent deux questions très importantes et qui sont différentes. C'est la lecture liée à l'alphabétisation et la littérature, qui est d'un autre ordre, qui est d'un ordre spirituel. Alors que tout le monde puisse lire, c'est évident, c'est un objectif qu'il faudrait remplir, mais ça ne serait pas avec justement cette gabegie de l'éducation nationale, ces hésitations sur les méthodes, qu'on va faire lire les gens. Et ensuite, il faudrait, sur le plan pédagogique, qu'on donne aux élèves des textes dignes de ce nom, dignes de la France, parce que la France est quand même connue pour être le pays le plus extraordinaire, au moins sur un plan, c'est sur le plan de la littérature. Nous avons des écrivains, et d'ailleurs, beaucoup de gens, je crois que c'est Stefan Zweig qui disait, quand on parle de l'Angleterre, on dit c'est le pays de Shakespeare, quand on parle de l'Allemagne, on dit c'est le pays de Goethe, quand on parle de la France, il y a 10 écrivains qui viennent immédiatement, Rabelais, Victor Hugo, Corneille, enfin, c'est extraordinaire. Et étrangement, il y a une confusion, on considère que faire lire les gens, ça va suffire à maintenir le niveau culturel. Non, il y a une petite différence, et je crois que c'est là où l'éducation nationale ne joue pas son rôle. Parce que la littérature, qu'on le veuille ou non, est associée pour elle à quelque chose d'élitiste. On considère que étudier Victor Hugo, étudier Corneille, c'est étudier une ancienne culture liée au latin et au grec, qui est une culture bourgeoise. Or, ce qu'on veut éliminer, c'est la bourgeoisie. Donc, pour éliminer la bourgeoisie, on va éliminer ce qui était l'apanage de la bourgeoisie, c'était cette culture générale extraordinaire. Mais c'est ce qui a fait la France. Et je suis désolé, mais tellement d'ouvriers, de gens du peuple ont réussi à se sortir justement de leur situation, de leur enfermement social, grâce justement à ces écrivains auxquels ils ont rendu hommage.
Alors j'ai une petite question, très courte, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est l'apprentissage de la lecture, il faut déjà apprendre à lire, il y a le lire pour lire, bien sûr. Mais c'est intéressant ce que vous dites par rapport à la littérature. Est-ce qu'il y a des niveaux de lecture?
Parce reculez-vous un petit peu, Sophie, sinon vous êtes...
Pardon. Il y a des niveaux de lecture. C'est vrai que, bon, ils arrivent tous vaguement à lire, etc. Mais est-ce que vous pensez que pour approcher notre littérature, pour lire des textes qui ne sont pas plus compliqués, mais enfin, pour vraiment lire, le niveau de lecture qu'on peut donner, même à des élèves qui vont passer des examens, est insuffisant?
Non, ce n'est pas une question de niveau de lecture. Parce que ça, c'est complètement subjectif. C'est la question des textes qu'on va lire, et des textes qu'on va proposer, et des valeurs qu'ils incarnent. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que la littérature ? C'est ce qui a constitué la France. La France est un pays façonné par les écrivains. D'ailleurs, les institutions, Jean-Jacques Rousseau a participé aux institutions, Montesquieu... Nous sommes vraiment un pays façonné à la fois dans nos institutions et dans notre mentalité. C'est pas un hasard si nos grands hommes d'État, De Gaulle, François Mitterrand et Napoléon, ont été des hommes extraordinairement cultivés et amateurs de littérature.
Et des auteurs.
Parce que cette littérature, ça constitue l'âme de la France. Voilà, l'âme de la France passe par la littérature. C'est son expression la plus évidente. Et il y avait un grand écrivain allemand qui s'appelle Curtius, qui a écrit un livre sur la France en 1935, qui disait « La France repose sur trois piliers, l'État, le catholicisme et la littérature. » La littérature
était
considérée...
On est mal barré, alors. Les trois sont très mal barrés.
On est mal partis. Mais la littérature, c'est quelque chose qui permet aux êtres d'abord de se situer, de savoir qui ils sont. C'est par la littérature, c'est pas par le livre. Parce que dans le livre,
oui,
pardon, mais il y a beaucoup de choses
qui
ne sont pas franchement des choses qui élèvent l'esprit. C'est par la littérature, ça permet de se situer, ça permet d'avoir une communication élevée avec les autres, sur un autre niveau que les petits problèmes de la vie quotidienne. Parce que maintenant, la conversation est morte en France. Les gens ne parlent de quoi ? Ils parlent des courses de chevaux, ils parlent des problèmes d'impôts, ils parlent des problèmes locaux. Ils sont ramenés au prosaïsme de la réalité. Ce qui leur manque, c'est de pouvoir s'évader grâce à la littérature, parce que la littérature transmet depuis toujours cette idée des Grecs et des Romains, et qu'a repris le catholicisme, qui était la vérité par la beauté.
Alors, oui, oui, oui. Mille fois oui. Sauf que on est obligé de constater un bouleversement du monde. Et on avait un colloque qui en parlait de cette fameuse intelligence artificielle dont on peut avoir peur, etc. Mais qui existe, qui est là et qui peut même remplacer pratiquement l'homme à un certain niveau. Comment va-t-on concilier la littérature ? Je partage complètement ce que vous dites. Comment va-t-on concilier ça avec des gens qui appuient sur un bouton pour avoir un résumé quelconque. Même dans nos entreprises, vous avez un jeune, on lui demande de réfléchir à un sujet, il appuie sur WhatsApp.
Mais
donc comment
Menton,
on va faire ?
Sophie de Menton,
oui.
L'intelligence artificielle,
oui.
Avec son côté abstrait, inhumain, nous l'avons déjà avec le gouvernement actuel. Nous l'avons, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire cette inhumanité, ce manque complet d'intuition sociale et le problème
pourtant
des agriculteurs. Le problème des agriculteurs qui ont raison. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en rend compte quand ils sont dans les rues ? C'est parce que les politiques, depuis longtemps, n'ont qu'une intelligence artificielle. Une fausse intelligence qui est complètement de brillants sujets qui ont fait de belles études.
Mais qui ont pourtant
lu. Mais qui sont... Non, ils n'ont pas lu. Enfin... vous ne les fréquentez pas beaucoup. Franchement, il y a une
inculture.
Il y a une inculture parmi les gouvernants qui est effrayante, qui d'ailleurs ne parle même plus en français, il parle en franglais. Donc, il y a qu'à voir, il ne pouvait pas, pendant le Covid, parler d'autre chose que du cloister au lieu de parler du foyer. Donc, vraiment, c'est une condamnation qu'il faut faire qui est générale. Je crois que cette peur maintenant de la bourgeoisie d'être elle-même et d'assumer le fait qu'elle était, elle véhiculait ses valeurs de culture et de littérature, voilà, et c'était à son honneur, elle poursuivait ce qu'avait fait l'aristocratie. Et que maintenant, on s'arrange pour essayer d'éliminer tout ce qui rappelle cette bourgeoisie à travers la littérature, c'est simplement condamner la France. Mais vous savez, la France a connu des époques effrayantes. Nous y allons d'ailleurs. Vers le 8e siècle, le 9e siècle, au moment des grandes invasions barbares, eh bien, c'était dans des monastères, il y avait quelques personnes qui recopiaient des manuscrits d'Aristote, de Platon. Et voilà. Et je crois que ça sera toujours une minorité qui maintiendra le feu, justement, de la littérature, c'est-à-dire de l'esprit. Voilà, c'est l'esprit français qui est en train de disparaître.
Oui, mais est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas faire disparaître l'esprit français ?
Mais je vous dis, elle est déjà là, l'intelligence artificielle.
Oui, il ne faut pas exagérer.
Mais bien sûr que si. Parler les politiques, vous verrez à quel point ils sont très loin de la réalité, de la sensibilité à la réalité. Ce sont des gens complètement abstraits. D'ailleurs, ils sont incompréhensibles. Est-ce que vous les comprenez ? Moi, je ne les comprends pas.
Alors, ça dépend des politiques, bien évidemment. C'est difficile de les mettre dans le panier. Il y a ceux qu'on voit à la télé, les 5-6 du gouvernement qu'on connaît. Mais encore, on connaît quelques ministres. Et puis, il y a les politiques aussi locaux, qui, eux, sont plus en prise avec le terrain. Et là, souvent, ils ont quand même une analyse assez fine, puisqu'ils sont au contact de leurs concitoyens. Mais j'ai une question pour vous, Jean-Marie Roy, justement, puisque vous parlez de littérature. Qu'en est-il de la littérature française en 2024 ? Sophie de Menton disait à l'instant, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui écrire des livres entiers avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'à votre avis, la littérature française en particulier est menacée ?
Non, vous savez, la littérature, c'est quoi ? C'est la défense de la loi naturelle contre la loi sociale. Et c'est l'expression d'une âme. Tant qu'il y a des gens qui auront une âme, ils écriront des livres incomparables. Aucun appareil artificiel, aucune intelligence ne pourra s'opposer ni ne pourra concurrencer avec l'âme. D'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous rencontrez des gens, il y a des gens qui sont d'une banalité totale, c'est-à-dire qui pensent comme tout le monde. Et puis vous avez des gens qui ressortent, et moi j'en ai connu un certain nombre, Philippe Tesson qui vient de disparaître, Jean d'Ormesson, Gonzac Saint-Brice, il y a des gens qui ont une âme. Ils ont une âme, donc une personnalité, et c'est ces gens-là qui maintiennent la qualité de l'esprit français. Donc, vous voyez, moi, je ne crois pas que l'intelligence artificielle va être une concurrence. Simplement, l'intelligence artificielle, c'est un risque de plus dans les processus de décision gouvernementale et militaire. Parce que maintenant, si les militaires se mettent à utiliser l'intelligence artificielle, déjà qu'ils n'ont pas énormément d'intelligence, ça va aggraver les choses.
Bon, tout le monde l'a pris pour son grade, ça c'est bien, je peux comprendre, mais il y a... Comment faire alors pour maintenir cette littérature au fond de nos âmes ? Est-ce que en classe, parce que là on parlait de l'éducation et de la formation, où est-ce qu'on peut la réintroduire ? Parce que vous avez beau faire et beau dire, c'est vrai, en train de disparaître. Je veux dire, là tout d'un coup, tiens, un exemple absurde. On a décidé, c'était assez absurde, il y a 4-5 ans, qu'on supprimait les maths. Dans l'enseignement secondaire, on supprime les maths. 3 ans après, dans le classement PISA, on était tombé à un niveau de 28e. Et là, maintenant, c'est les maths à fond la caisse et en poussant les filles pour qu'elles fassent des maths parce qu'a priori, soi-disant, elles les aimaient pas. Donc, il y a des manipulations qui sont faites, des manipulations qui, de fait, empêchent de lire. Et comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on réintroduise cette littérature à l'école ? Qu'est-ce que vous voudriez ?
Mais la littérature, c'est pas seulement le domaine de l'école. C'est
Commence par là.
En partie, non. Parce que la culture générale, pardon, mais c'est...
Non, mais les enfants, il faut éduquer les enfants.
Mon exemple que je n'aurais pas donné, qui est celui d'un très mauvais élève, qui est un miraculé de la culture générale. Donc, c'est quelque chose de personnel.
Alors comment ? Bah justement,
c'est
bonne question.
Lien, c'est bonne un question. Lien personnel, la littérature, c'est comme la spiritualité.
Comment avez-vous
comme
créé ce lien personnel ? Puisque vous êtes un parfait exemple d'un échec complet de l'éducation nationale, On a compris.
Alors, il y avait deux bacs à l'époque et Jean-Marie a passé, du coup.
Oui, j'ai mis un certain nombre d'années pour obtenir ces deux bacs. Néanmoins, j'ai mis 5 ans pour obtenir les deux bacs.
Oui. Néanmoins, oui, mais où est-ce
néanmoins,
que vous avez
c'était
rencontré
le bac d'autrefois. Oui. Et avec le bac d'aujourd'hui, j'aurais eu une mention très bien. Et,
pas
et
sûr,
ça, m'a amené à, d'ailleurs, l'association des surdoués m'a demandé de présider son colloque annuel à Strasbourg. Donc,
oui, parce que maintenant, quand on est nul, on dit que vous êtes surdoué. Ça,
non.
C'est une grande spécificité
enfin,
de l'école.
En ce qui me concerne, c'est peut-être juste.
Une forme d'intelligence différente. À quel moment, justement, il y a eu cette rencontre
avec la
littérature?
Oui, comment avez-vous rencontré tout seul?
Cette rencontre avec la littérature a eu lieu très tôt. À l'âge de 13 ans, je me suis mis à lire Stendhal.
Il y avait des livres chez vous?
Il y avait des livres chez moi. Mais il y avait peu de livres. C'est une famille de peintres, et surtout des tableaux. Il y avait des livres. Mais il y avait une ambiance culturelle. Voilà.
C'est ça, c'est une ambiance. Citons Auguste Arouard. Je tiens à citer Auguste Arouard, votre père. C'est un peintre de très grand talent.
Et qui récitait couramment des vers de Verlaine. Donc il y avait une ambiance culturelle. Mais, vous savez, les véritables cultures, elles se font. Ce sont des cultures individuelles, c'est personnel, c'est un lien personnel. Et d'ailleurs, je pourrais vous citer beaucoup de normaliens qui ont fait des études très très brillantes, que ce soit des politiques ou même des gens qui ne sont pas des politiques, et qui n'ont pas vraiment beaucoup de culture générale. C'est pas parce que vous avez fait des études très brillantes, même en matière littéraire, que vous avez une culture. Et quelqu'un que j'ai bien connu, qui avait une immense culture, mais qui était normalien, qui était Jean d'Ormesson, mais c'était un acquis personnel. Il avait passé sa vie à réfléchir sur la littérature, à lire, et surtout pas seulement à lire, mais à comprendre ce qu'il lisait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'élément de spiritualité et cet élément extraordinaire. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est une chance de pouvoir avoir des amis à votre portée? Quand vous êtes dans un milieu défavorisé, qu'il soit bourgeois ou qu'il soit ouvrier ou paysan, cette possibilité de pouvoir saisir un livre de Montaigne, un livre de Voltaire, un livre de Chateaubriand, les poèmes de Rimbaud, un livre de Mauriac, c'est extraordinaire. Vous avez à votre portée des amis géniaux. Bref, vraiment, vous aurez du mal à trouver d'ailleurs dans vos contemporains des gens qui soient à leur niveau. C'est une chance inouïe. Et moi, c'est un bonheur.
Vous les relisez ?
Bien sûr, mais parce qu'un livre, il ne s'efface pas quand vous l'avez lu. Justement, il retentit en vous. C'est ça la différence entre ce qui est un livre qui est de la littérature et quelque chose qui n'est pas de la littérature. C'est que la littérature, vous le relisez sans fin. J'ai lu personnellement Anna Karénine 5 fois. Vous voyez, et à chaque fois, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Il y a une résonance. Parce que c'est
qui est différente aussi suivant son âge.
Oui.
Les épreuves qu'on traverse.
Mais même, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas à la première lecture, ni à la deuxième. Donc, je crois que
c'est la littérature russe extraordinaire qu'on voulait enlever des facs.
C'est un privilège extraordinaire d'avoir cette possibilité de confronter son âme à l'âme d'un grand génie littéraire.
Oui, Jean-Marie, vous ne me donnez pas de solution. Si. Nous avons des gens qui... Bien sûr, la solution finale, si je puis dire. Mais nous avons des gens qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui ont des salariés, etc.
Oui,
qui
sont très doués.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, à un enfant, est-ce que vous avez une idée?
Je leur dirais,
sur des tablettes.
D'incriminer l'éducation nationale, qui certes est coupable,
mais les parents
est coupable
aussi.
Dans l'apprentissage de la lecture, mais c'est aux parents de se rendre compte de l'importance des valeurs culturelles, d'emmener leurs enfants à des expositions, mais beaucoup le font, et d'emmener leurs enfants les amener à la lecture, mais de pas se contenter de la lecture distraction, se dire qu'il y a des livres qui sont d'un accès facile, parce que c'est une erreur de croire que les classiques sont d'un accès plus difficile que les contemporains. Moi qui lis beaucoup de contemporains, je peux vous dire quelquefois, c'est plus difficile de lire des contemporains que de lire des classiques. Donc, et comprendre à quel point c'est essentiel pour se situer dans l'histoire et pour comprendre les autres. C'est un apprentissage merveilleux qui vous permet de contextualiser votre histoire, qui vous permet de l'éclairer et qui vous permet d'enrichir ce que vous avez de plus riche en vous. Voilà. Donc je crois que la littérature, c'est essentiel.
Donc alors une petite question. Qu'est-ce que vous donnez à lire à Emmanuel Macron aujourd'hui? Quel est le livre que vous lui donnez à lire?
Je n'en ai pas mal, parce que j'ai pas l'impression que sa culture en matière... Pas en matière philosophique. Oui. Ça, je reconnais qu'en matière philosophique, c'est un homme qui a des compétences. Mais en matière littéraire, je me rends bien compte que c'est pas son c'est pas un littéraire. Voilà. C'est pas du tout un littéraire. Moi, j'ai très bien connu François Mitterrand, qui était un littéraire.
Oui.
Voilà. De Gaulle était un littéraire. Il y avait un certain nombre d'hommes politiques qui sont des littéraires. Je crois que Bruno Le Maire est un littéraire. Mmh. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de Emmanuel Macron.
Vous n'avez pas un livre particulier à lui donner à lire?
À lui donner?
Oui, à lire.
Eh bien, je lui donnerai mon dernier livre.
Oui.
Lequel, c'est
La maîtresse italienne.
D'accord. Et vous écrivez en ce moment?
Ah, oh, n'arrête je pas
publie,
d'écrire.
Je publie les livres et je fais jouer une pièce de théâtre qui s'appelle Le bar de l'Oriental.
Et, comme, je et crois qu'il que faut aller voir, c'est, qui c'est, est formidable.
C'est un, comme Emmanuel Macron est un passionné de théâtre, comme voilà. Brigitte Macron, j'espère bien qu'ils viendront voir le bar de l'Oriental.
Au ben théâtre, voilà. L'invitation est lancée.
Et le dernier livre de Jean-Marie, est justement, La maîtresse italienne, c'est formidable. C'est Napoléon qui s'échappe et qui s'échappe finalement indirectement. On ne sait pas vraiment dans le livre si c'est grâce à ça, mais grâce à la maîtresse italienne de celui qu'il garde et qui est une séductrice extraordinaire. Donc, c'est vrai que dans toute cette littérature, il y a les situations qu'on revit, il y a la compréhension de l'âme humaine, etc. Mais moi, je suis projetée vers l'avenir et je suis terriblement inquiète. Et que faire en classe pour redonner le goût de la littérature? Que faire? Il y a les parents, il y a tout. Bon, c'est pas si facile.
Non, mais il faut...
À l'Académie, vous avez réfléchi
tout,
à ça un peu?
Il faut en tout... Avoir, c'est pas le rôle de l'Académie, c'est le rôle de l'éducation nationale. L'Académie
non, pas l'éducation nationale.
Peut pas, ne peut pas suppléer à tout, non. C'est pas un organisme politique. C'est pas un organisme politique. Elle s'occupe de la langue française. Et la langue française, déjà, c'est un gros travail.
C'est pas une réussite.
Parce qu'avec le franglais, c'est une catastrophe.
Donc, et l'orthographe.
Je pense que, individuellement, nous pouvons tous agir en ayant conscience de cette différence, déjà, entre ce qui est de l'ordre du livre et ce qui est de l'ordre de la littérature.
Voilà, d'accord.
Pourquoi je me suis bien exprimé là-dessus. Et c'est aux parents d'aider leurs enfants, de leur proposer des livres, et il y en a tellement. Ils peuvent commencer, je vous donne un livre merveilleux pour un adolescent ou une adolescente, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary, oui. Qui est un merveilleux livre, et qui est un livre en même temps d'insertion. À une époque où on est beaucoup préoccupé par ces questions d'insertion, à juste titre, mais c'est merveilleux de voir quelqu'un qui s'insère, qui se convertit à la France. Mmh. Et je crois que le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture devraient donner à tous les élèves, dès leur entrée en classe, eh bien, ce livre de Romain Gary, La promesse de l'aube.
Ah ben voilà, on est passé...
C'est la conclusion.
Sophie, de la formation au conseil littéraire de Jean-Marie Rouhal. Enfin, si on comprend en creux, il faut cultiver son jardin. Donc, comme disait Montaigne. Un grand merci, en tout cas, Jean-Marie Rouhal. Je rappelle que vous êtes académicien, auteur et journaliste. Merci, Sophie de Montand, pour avoir invité ce panel. Qui nous
intelligentsia de la main et de l'esprit.
C'est vrai. En tout cas, à retrouver directement en podcast nos émissions. Un grand merci et je vous dis à très bientôt pour un prochain colloque éthique.
La nécessaire évolution de l'enseignement, de la pédagogie et de la formation. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, jeudi 7 mars 2024.